Bernard Friot, bonsoir. Vous êtes sociologue économiste, professeur d'université à Paris 10. Vous animez l'Institut européen du salariat et une association d'éducation populaire qui s'appelle Réseau Salariat. Vous avez écrit, entre autres, la construction sociale de l'emploi en France et la cotisation sociale créera l'emploi, puissance du salariat ou encore l'enjeu des retraites. Alors, ma première question est celle-ci. Pour nous situer historiquement, j'aimerais savoir pourquoi les services publics et les assurances collectives, qui sont tant critiquées et remises en question aujourd'hui, furent des inventions au sens fort du terme, des inventions sociales et démocratiques. Et en quoi furent-elles révolutionnaires vis-à-vis de ce qui existait avant, et pourquoi sont-elles encore révolutionnaires ?
Elles sont révolutionnaires parce que... Merci de poser cette question, parce que c'est vraiment décisif. Elles sont révolutionnaires parce qu'elles changent la définition du travail, la définition de la valeur et la pratique de la valeur économique. Dans le capitalisme, ne travaillent que ceux qui portent une force de travail sur un marché du travail, une partie d'eux-mêmes, donc, qu'ils objectivent dans une marchandise qu'ils portent sur un marché. Et là, ils vont être demandeurs d'emploi, soumis au chantage des employeurs, c'est-à-dire des propriétaires lucratifs. Et s'ils sont embauchés, ils vont mettre en valeur du capital. Ça, c'est la définition capitaliste du travail et de la valeur. Et pour le capitaliste, quelqu'un qui ne répond pas à cette logique-là, un fonctionnaire, un retraité, etc., ne travaille pas. Or, précisément, qu'est-ce que nous avons inventé au XXe siècle dans la bataille syndicale ? Nous avons inventé l'attribution de valeur au travail des fonctionnaires qui contribuent pour une part notable au PIB aujourd'hui, au travail des retraités, au travail des soignants, au travail des parents, au travail des chômeurs. Je viens de faire allusion là aux quatre branches de la sécurité sociale. La Sécu, c'est pas... un espace de solidarité qu'on aurait créé par une ponction sur la valeur capitaliste, hein, et qui ferait que ce serait simplement un correctif au nom de la solidarité du capitalisme. On ne pourrait pas sortir du capitalisme parce qu'il n'y a de valeur économique que capitaliste. Non, la Sécu, c'est l'imposition d'une autre façon de travailler sans marché du travail. Il n'y a pas d'employeur, il n'y a pas de marché du travail pour les retraités. Sans mettre en valeur du capital, les soignants, les retraités ne mettent pas en valeur de capital, les parents, les chômeurs. Une autre façon de travailler qui marginalise la valeur capitaliste et qui anticipe ce qui pourrait être tout le PIB. Tout le PIB pourrait être fait par des gens qui n'ont ni employeur ni actionnaire. On travaille beaucoup mieux sans employeur et sans actionnaire.
Alors justement, vous remarquez cette... coïncidence, et plus qu'une coïncidence, entre les problèmes de croissance économique que l'on connaît aujourd'hui et l'absence d'augmentation des cotisations sociales. Est-ce que vous pourriez nous expliquer la manière dont vous voyez précisément cette coïncidence qui en est plus qu'une d'après vous ?
Oui, effectivement, en général, on dit ceci, hein, puisque la sécurité sociale et l'administration aussi, hein, sont des dépenses publiques. Hein. C'est des choses utiles. C'est utile de soigner, c'est utile de payer des retraités, c'est utile de verser des allocations familiales, c'est utile qu'il y ait des fonctionnaires, le non-marchand est utile, etc. Mais ça ne crée aucune valeur. Eh bien, si aujourd'hui il y a une difficulté à assumer ces services publics, à renouveler les fonctionnaires, le nombre des fonctionnaires, ou à l'accroître, à augmenter le taux de cotisation, c'est parce qu'on ne produit pas assez. Puisque la Sécu et les services publics, c'est une ponction sur la valeur capitaliste. Et donc, il faudrait d'abord commencer par produire plus de valeur capitaliste. Et là, on est justement pieds et poings liés devant nos maîtres. En quelque sorte, on les supplie de nous embaucher pour qu'on produise plus de valeur capitaliste afin de pouvoir avoir ensuite de la solidarité et du non-marchand. Alors là, on raisonne
sur... c'est la pensée actuelle.
Absolument, plus qu'actuelle, depuis longtemps d'ailleurs. On pense, hélas, la Sécu en ces termes de solidarité, d'un truc très utile mais pas productif. Et on va donc lire la situation actuelle comme... Il n'y a pas de croissance. Écoutez, la croissance est en panne. Hein. Et c'est normal, du coup, qu'on ne puisse pas avoir toute la protection sociale et tous les services publics. Il faut lire, au contraire, les choses dans l'autre sens. C'est parce que depuis les années 80, on n'augmente plus ni les impôts qui ont baissé, ils sont passés de 21 à 18 % du PIB au cours des dernières années, ni la cotisation. Alors le taux de cotisation, il est gelé complètement. Il a augmenté en termes de salaire brut. Le taux de cotisation est passé de 16 % du salaire brut en 45 à 32 % en 46. Ça, c'est l'acte révolutionnaire de Croizat. Et il a encore augmenté de la moitié, il a doublé encore, il est à 66 % en 95 du salaire brut, et depuis, rien. Gel complet. C'est ce gel du taux de cotisation, c'est ce gel de l'impôt qui fait que la partie la plus dynamique du PIB, celle qui reconnaît justement la valeur produite par les administrations et par la sécurité sociale, est en panne. Et du coup, nous sommes en récession, bien sûr, mais nous sommes en récession parce que nous n'augmentons plus la cotisation et l'impôt, qui sont des créations monétaires au service de la mise en valeur des activités non capitalistes de l'administration et de la sécurité sociale.
Alors j'ai une autre question. On parlait justement de cette invention politique que furent les assurances collectives et les services publics. Sur quelle idée du travail est-ce que, justement, nouvelle définition du travail, est-ce que cela fut-il mis en place? Est-ce que vous pourriez nous développer un peu cette idée-là et aussi cette idée de salaire à vie?
Voilà. Alors, sur la question de l'idée du travail qui prévalait lorsque l'on a créé l'impôt et la sécurité sociale, non, il n'y a pas eu de réflexion à proprement parler sur le travail, parce que c'est le propre de toute classe dominante. Elle domine parce qu'elle a réussi à rendre naturelle, évidente, sa définition du travail. La définition du travail qu'opère le capital, c'est-à-dire on travaille quand on, je l'ai déjà dit, hein, on porte sur le marché du travail une force de travail qui va être ou pas embauchée, et ensuite on produit de la valeur pour le capital. Cette définition-là, elle n'est pas contestée lorsqu'on crée la Sécu. Ce qui est contesté, c'est le partage de cette valeur. On va dire, on va ponctionner une partie de cette valeur en taxant le capital et le marché du travail, on va en ponctionner une partie pour l'affecter à des activités de solidarité ou de non-marchand. C'est là justement que, aujourd'hui, les opposants à la réforme sont vulnérables, parce qu'ils ont toujours ce discours qui a accompagné la création de la cotisation et qui a suffi, dans une situation avec une classe ouvrière organisée, un parti communiste puissant, enfin, des institutions révolutionnaires qui pouvaient poser des actes comme celui de Croizat qui double le taux de cotisation en 46, c'est quand même tout à fait énorme. Elle a pu accompagner cette création de la Sécu d'un discours assez traditionnel sur la valeur économique et le travail. Mais maintenant que les réformateurs veulent détruire les institutions de 45, il faut absolument que nous construisions un discours sur le travail qui soit à la hauteur de ce que, de fait, ces institutions ont créé. De fait, elles ont créé de la valeur économique par des gens qui n'ont pas d'employeur, les fonctionnaires, les retraités, etc., et qui ne mettent en valeur aucun capitaux. Bon, de fait, d'accord. Mais nous ne pourrons continuer à faire progresser les institutions qui font l'objet d'une telle hargne des réformateurs que si, qui veulent en finir avec la cotisation, avec la fonction publique, en fait, etc., que si nous savons développer sur le travail un tout autre discours qui dise « mais on travaille, bien sûr, lorsque on a un salaire à vie. Pas simplement quand on a un emploi. Hein. » Si je me suis fait comprendre quand j'ai parlé de la définition capitaliste du travail, avec le marché du travail, etc., dans le capitalisme, on ne travaille que si on a un emploi. Eh bien, ce que nous avons imposé au cours du XXe siècle, dans la bataille syndicale et politique, c'est que quelqu'un qui a un salaire à vie, le fonctionnaire, le retraité, travaille, produise de la valeur économique. Et vous voyez que c'est extrêmement intéressant, parce que ça veut dire qu'on peut se libérer du capitalisme. On fait la preuve. 40%, est-ce que vous êtes vraiment au courant de cette affaire? 40% du PIB aujourd'hui est produit par les services publics et la sécurité sociale, c'est-à-dire par des gens qui n'ont pas d'employeur et pas d'actionnaire. Eh bien, à ce fond, tout le monde peut produire sans employeur et sans actionnaire. C'est ça la bonne nouvelle du XXe siècle.
Alors, quelles seraient les perspectives, justement, sur lesquelles vous considérez qu'il s'agit d'appuyer ?
Ben, nous allons avoir une bataille sur la retraite. Hein. Il faut absolument se battre pour la retraite, pour ce qu'elle est, hein, c'est-à-dire un salaire continué. Ce n'est pas un revenu différé, j'ai cotisé, j'ai droit. Ce n'est pas comme ça qu'on a construit la retraite. On a construit la retraite autour de ceci, à 55 ans, c'est la revendication de la CGT jusque dans les années 95 à peu près, à 55 ans, à 50 ans cas de métier pénible, j'ai droit à 100% de mon meilleur salaire. 75% du brut, c'est 100% du net. Hein. Et cela à vie. C'est-à-dire qu'à 55 ans, je suis libéré du marché du travail et des employeurs. Je suis payé à vie, c'est du salaire, parce que c'est 100% de mon meilleur salaire, indexé sur les salaires. Et avec ça, bien sûr, je vais travailler. La retraite, c'est une seconde carrière. Ce n'est pas la libération du travail, c'est la libération des institutions capitalistes du travail, que sont la propriété lucrative et le marché du travail. Eh bien, battons-nous contre les réformateurs qui veulent supprimer tout cela, en disant « Ah non, la retraite, c'est j'ai cotisé, j'ai droit ». Plus d'âge légal, plus de salaire de référence, plus de taux de remplacement, plus d'indexation sur les salaires, plus de hausse du taux de cotisation. Non, pas du tout. Chacun a un compte sur lequel on additionne toutes ses cotisations. Et puis, lorsqu'il prend sa retraite, eh bien, on divise ce compte par l'espérance de vie de sa cohorte. Ça, c'est le modèle suédois. Et de sorte que la somme de ses pensions soit égale à la somme de ses cotisations. Il n'y a plus du tout de référence au salaire, il n'y a plus de taux de remplacement, il n'y a plus rien de tout ça. Ce n'est plus du salaire, c'est du revenu différé, qui signifie qu'on ne produit de valeur que dans le capitalisme et que quand on n'a pas d'emploi, ben, ma foi, quand on est retraité, on ne produit rien, on n'a pas droit au salaire, on a droit du revenu différé. Si nous voulons nous opposer aux réformateurs, il faut prolonger la bataille des années 1920-1980, celle qui est un peu en panne, disons, depuis 20-30 ans, en revendiquant donc la retraite à 55 ans, au début, il faudra que ça baisse, hein, 50 ans, enfin, etc., bien sûr, la retraite à 55 ans comme seconde carrière, pour travailler, bien sûr, à 55 ans, on va continuer à travailler, mais en étant libéré des employeurs et des actionnaires, en ayant l'initiative de notre travail, et cela avec une hausse croissante du taux de cotisation, puisque la part produite par les retraités va augmenter relativement à la part produite par les non-retraités. Et cela, ce salaire, il est à 55 ans 100% du meilleur, sans condition de cotisation. Il n'y a aucune condition, il faut supprimer les annuités et les points dans le calcul de la pension. La contrepartie en valeur de la pension, c'est-à-dire le travail qui fonde la monnaie que je reçois comme pensionné, mais c'est moi qui la produis par mon travail de pensionné.
Et cela aussi avec cette perspective de copropriété des lieux et de l'usage des lieux de travail.
Oui, ça c'est absolument fondamental. Merci d'ajouter ce point. Le salaire à vie, c'est une des jambes sur lesquelles il s'agit que nous nous battions, à commencer par la retraite, mais aussi démarrer le salaire à vie pour les jeunes. Par exemple, entre 18 et 25 ans, commencer à mettre en place un salaire à vie à 1500 euros, par exemple, premier niveau de qualification. Et ensuite, on pourra faire une carrière salariale entre 1500 et 6000 euros, par exemple, hein, en passant des épreuves de qualification. Mais la deuxième dimension du droit de qualification universelle à donner à 18 ans à tous, c'est la propriété d'usage, la copropriété d'usage. Nous crevons de ne pas être propriétaires de nos lieux de travail. On voit bien, quand les actionnaires de Peugeot décident, ben, ma foi, nous, on est là tout couillon. Il y a un moment où il faut arrêter d'attendre que ces actionnaires veuillent bien nous donner du travail. Il y a un moment où il faut dire qu'ils ne vivent que de notre travail et nous allons nous approprier notre travail. Nous allons être les copropriétaires d'usage de nos lieux de travail, de tous les lieux de travail, pas simplement une nationalisation des grandes boîtes. Tous les lieux de travail doivent devenir la copropriété d'usage de leurs salariés, c'est-à-dire comme propriétaires, ils vont décider de l'investissement, ils vont décider de la hiérarchie, ils vont décider de ce qui va être produit, ils vont décider des accords internationaux parce que beaucoup de production se fait dans la division internationale du travail. Et ils seront copropriétaires d'usage, c'est-à-dire qu'ils ne retireront aucun revenu de leur propriété. Il faut supprimer la propriété lucrative, c'est-à-dire le fait des capitalistes qui tirent un revenu de leur patrimoine, hein, en piquant forcément sur le travail d'autrui, dès lors que c'est le patrimoine qui est la source du revenu, et comme il n'y a que le travail qui produit de la valeur, on pique forcément sur le travail d'autrui. il faut supprimer la propriété lucrative afin de pouvoir généraliser la propriété d'usage. Il faut généraliser la propriété, sûrement pas la supprimer. Nous avons la propriété, la condition de la liberté, à condition que cette propriété soit d'usage, c'est-à-dire qu'on n'en tire aucun revenu, aucun dividende, aucune prime liée à l'entreprise. Tout ça, bien sûr, n'est pas condamné, enfin, est refusé.
Bernard Friot, merci.
Merci de cet entretien.